Jean-Richard Bloch, Lévis. Partie 4. Dix ans font d'un jeune homme un homme jeune, d'une barbe brune une barbe poivre, d'un crâne un genou, d'une bonté une mollesse, et d'un lot d'émotions, riche comme un tapis de Perse, une collection de souvenirs plus indigente qu'un recueil d'Anna. Mais au bout de 10 ans, la peur reste la peur. C'est ce qui explique pourquoi, pendant 10 ans, tous les circulaires de Valentin Loubatier contournèrent avec une prudence égale la capitale de l'Ouest, rappelant les flexuosités qu'affectent les itinéraires des explorateurs autour d'un sultanat malfamé. Ce fut un corps à corps de 10 ans avec le Cheix. Les correspondances les plus déroutantes sortirent de ces colonnes. Les transversales détournées furent mises à contribution avec un esprit de suite qui fit réfléchir le contrôle sur leur avenir possible. On vit décharger les caisses noires du voyageur dans les petites stations les moins préparées à cette manutention, tandis que l'exploitation, nerveuse, calculait les minutes de retard dont le service central lui demanderait compte, jusqu'au jour où il fallut bien y revenir. D'ordre de la maison, Bertin et compagnie firent place à Bertin fils, qui ignorèrent de propos délibérés les longs états de service, ne connurent plus rien hors la grandeur de la raison sociale et ajoutèrent 15 articles au catalogue. La capitale de l'Ouest n'était pas à négliger. Les bazars et les quincailleries s'y multipliaient. Ces messieurs ne concevaient pas l'entêtement du voyageur à laisser la place à la concurrence. De pressants, ils se firent impérieux. Il fallut bien y revenir. Respiration égale du printemps dans les chênes étêtés, vague moirée du soleil sur les moissons en herbe, bouffée de poussière vite essoufflée sur les grandes routes, ronde sifflante des feuilles mortes du dernier automne, premières oies grises en panique sur les accotements, première ascension tremblée de l'air sur les croupes chaudes des guérets, première gaieté des bas-fonds affraîchis, et reflet vertical des peupliers dans les eaux calmées, chant monotone des deux haies, vertige des descentes vers les ponceaux ombreux, choc des insectes contre le pare-brise biseauté, bruissement égal des 4 cylindres dans l'espace lumineux, odeur persistante de peinture fraîche et de cuir neuf, drapeaux tricolores aux mairies, lampions aux bastringues, rassemblement animé de blouses violettes et bien vernies au seuil des sections de vote, repos hebdomadaire, bonne humeur civique, opinions à 25 centimes le litre, poussée en avant de la République, et Valentin Loubatier roulé dans un cache-poussière important qui court à travers tout cela dans l'auto d'un client vers la capitale de l'Ouest. Les premiers pavés font ruer la caisse entre ses ressorts. La longue et basse machine bleue de roi s'insinue à petits coups de volant entre les groupes de citoyens. Les gros pneus ferrés dérapent contre les rails du tramway. Les 4 cylindres échangent discrètement des claquements de langue égaux et mesurés. Des petits brouillards de moucherons et de poussière, le jour tombe. Un voile doré arrive de la préfecture et descend lentement sur l'hôtel de ville, dont les vitres, entre leurs meneaux renaissance, s'incendient de proche en proche en l'honneur du soleil couchant, comme une rampe de gaz au bout de la perche d'un allumeur. Pro et contra. Le sort des municipalités s'amasse dans le flanc des urnes. Les comités électoraux consomment en chapeau de paille à la terrasse des cafés. Et les télégraphes s'éclaircissent la voie à petits coups d'appel bref d'un bout des fils à l'autre. Les voyageurs ne votent pas. Les voyageurs n'ont pas de municipalité à eux. ils ne servent à rien dans les comités. Ils prennent poliment les intérêts de leurs clients et s'appliquent à ne pas confondre le Morin de Ribérac, qui est réactionnaire, avec le Morin de Thouars, qui est radical. La place d'armes est un meeting confus. 10 000 convictions politiques s'y affirment côte à côte. Le balcon du cercle agricole se garnit de vieillards bien mis qui pointent les voix et mettent la liste républicaine en minorité sur la foi des estafettes du Collège des Pères. L'auto s'arrête en pleine foule avec un gémissement doux des freins. Le voyageur, debout, comme un charlatan sur sa voiture de louage, se dévêt lentement et à gestes amples de son cache-poussière. Deux foules ne se ressemblent pas. Mais la bête a un certain reniflement auquel on ne se méprend pas deux fois. Seul, de tous les bruits animaux, le grognement d'une porcherie peut se faire prendre pour celui d'une cage à fauves. Et il n'y a pas moins près du porc au tigre royal que du peuple content au peuple irrité. Je ne connais pas bien cette satanée ville et on ne peut plus faire un tour de roue sans écraser un électeur. Mais vous ne voulez pas que je vous conduise à votre hôtel ? Demande le client derrière ses lunettes. Le voyageur incline sa haute taille. Vous ne les croyez pas méchants ? S'il vous plaît ? Oui, enfin, vous ne pensez pas qu'il se prépare un mauvais coup pour ce soir ? Du grabuge, des manifestations. Un soir d'élection, je ne prends rien sous mon bonnet. Et avec un sourire encourageant, les populations de chez nous sont très douces, vous devriez les connaître. Très douces, très pacifiques. Tout se bornera à quelques réverbères cassés et à quelques coups de poing dans les figures. Un drôle de frémissement prend le voyageur de la nuque au coccyx. « Êtes-vous libre ce soir ?» Le client à l'auto lève le nez. « Deux vagues cousins, vous savez. » Valentin sait pertinemment l'espèce de cousin qu'un client de petite ville s'en vient voir au chef-lieu un dimanche soir de fête. Il mesure son sort. « Trop aimable. Je m'en irai bien à l'hôtel sur mes pieds. Faites-y seulement porter ma valise. Mes caisses sont arrivées par chemin de fer. » Au revoir, merci. De rien. Sur une pétarade de gaz, sans embrayer, le client fait le vide devant son capot, puis démarre tout à coup avec une modération inattendue. Le voyageur reste seul au bord du trottoir, nez à nez avec une figure qui le considère depuis un bon moment. Il la reconnaît au premier coup d'œil. Il ne s'étonne pas le moins du monde que le souvenir l'attende là où il le fallait. Il ne trouve pas un instant que cela se fasse trop comme cela se devait, en bonne logique. Puisqu'il revient dans la capitale de l'Ouest, il n'est aucunement surprenant que le monde qu'il porte dans sa tête députe au bord du trottoir pour le recevoir, ce bonnet d'astrakan rougeâtre et cette longue capote noire veuve de boutons.
« Bonjour !»
Lorsqu'on touche le fa d'un piano légèrement désaccordé, tous les fas de l'instrument s'émeuvent. La voix aigre et brusque de la figure coiffée de fourrure fait trembler le passé en Valentin Loubatier. Il grimace un sourire.
« Monsieur Davido... »«
Davidovitch. Oui, Davidovitch. Un nom de sauvage, n'est-ce pas ?» Monsieur Loubatier, et comme ça, ça vous va à la bonne, depuis les fois anciennes ?
Privé de la résonance que lui donnaient les fois anciennes, l'arrière-boutique du marchand de cycles, la voix du juif russe, prend un éclat sec qui surprend le voyageur comme une détonation de revolver dans le brouillard. Il ne peut se retenir de jeter un regard circulaire sur les citoyens qui écoutent. On ne saurait mieux s'arranger pour se faire écharper. On n'a pas idée de crier son état civil sur les toits quand on porte un nom à la nitroglycérine. Mais les citoyens contemplent le voyageur avec attendrissement. Il touche la main que lui tend largement son interlocuteur.
« Vous nous avez lâchés, hein ? Il y a bien 10 ans qu'on ne vous a revus. C'est comme ça qu'on plaque ses amis ? Les immigrés ont des mœurs communes qui sont leur marque en tout pays. Ils assimilent l'argot avant la langue. Et comme pour se reconnaître au milieu d'inflexions nouvelles à leur gosier, leur accent s'installe dans les sonorités les plus soutenues et les plus criardes. Cet argot martelé revêt des airs de bravade. Une familiarité de rustre qui prendrait votre femme à la taille. C'est une sorte de tutoiement national à l'expérience duquel peu de sang-froid résiste. L'épiderme de Valentin Loubatier devient douloureux comme celui d'un malade qui monte sur la table d'opération. Il ne peut supposer que toute la foule n'ait pas renaclé en même temps que lui. Il baisse la voix et le nez. Du bout du pied, il attaque le macadam défoncé de la place. « Que voulez-vous, les clients ? Toujours sur les quatre chemins. » Et à part soi, il gronde. « Voilà un bougre de maladroit qui va se faire démolir, et on dirait que c'est moi qui ai la venette. » Il se redresse. Les jambes écartées, le corps maigre et droit, la tête aux pommettes dures dressée très haut sur les épaules, l'autre écarquille sa face d'ivoire jaune dans une grimace de bonne humeur. Le voyageur remarque un petit œil très noir qui le guette, en avant des cirrus soyeux que font les cheveux blancs. Et brusquement, le grand vieillard part d'un éclat de rire osseux. « Loubatier, c'est plaisir à vous voir. Vous savez que les fils sont là ?» La mémoire du voyageur dresse péniblement l'arbre généalogique de la famille Davidovitch. Et prudemment, il répond « Tous ?» « Venez-vous avec moi trouver Lévi ?» Sans attendre de réponse, le fourreur saisit sa calotte d'astrakan et la promène horizontalement d'un geste large sur ses voisins qu'il domine de la tête. « Au revoir, ami !» Des grognements sympathiques répondent à son sourire circulaire. Il prend Loubatier par-dessous le bras et, la tête toujours jetée en arrière, fend la presse à grands pas. La barbe brune de l'occidental se soumet à la compagnie de cette longue capote exotique et de ce bonnet d'un autre âge. Eh non, pas tous. 2. Abraham, Élie. Abraham faisait ses 3 ans quand vous étiez là. Il semblerait à l'entendre que le voyageur eût demeuré là 6 mois et que, dans ce laps de temps, ils se fussent fréquentés 12 heures par jour. Élie, lui, a servi dans l'armée du petit père Nicolas. Vous savez, Guidal est à New York et Israël en Égypte. Fourreur ? Questionne poliment le voyageur. Fourreur, naturaliste et possier, tous 4. Tous mes œufs dans le même panier. Et la vieille va comme sur des roues. Voici Lévi. Le voyageur reste bec bée. D'une bourrade dans les côtes et d'un clin d'œil, le juif russe accentue la malice d'un « Hé !» passablement goguenard. À la terrasse de la rotonde, des messieurs politiques pérorent autour des colonnes de soucoupe en feutre brun. « Le comité républicain !» souffle Davidovitch. Ces messieurs, il y en a de toutes les eaux et de toutes les formes. Mais l'homo politicus de France est d'un type dont l'uniformité a déjà retenu l'attention de la zoologie. Dans le nombre, quelques bonnes têtes qui disent oui quand les élus ont parlé. Ils causent tous en même temps et avancent la bouche par-dessus les tables pour bien faire valoir leur discours, à la manière de tous les messieurs politiques. Un petit nuage bleu d'absinthe leur sort des gencives et sucre l'air qui devient douceâtre et nauséabond comme un sirop tourné. « Hé, Lévi, bras !» Le vieux fourreur ne se sent plus de joie. Il défonce à coups de coude les côtes de Valentin Loubatier. Lévi, rouge toujours, a son verre parmi ceux du majestueux comité. Le petit homme gras est assis tout droit, une canne entre les jambes. Un panama de 100 sous a coulé sur sa nuque ronde où un dernier reste d'équilibre le retient. La calvitie a fait tache d'huile dans les cheveux roux. Les mouchetures jaunes de la peau ont pâli. Le faux col est blanc. Mais c'est bien là le demi-sourire silencieux dont le voyageur a gardé le souvenir. vice-président, lui, Lévy.
Ça fait rigoler quand on a été du Bund, hein?
Les temps ont changé, dites, Loubatier. Vice-président, il est,
Devant la terrasse où se désaltèrent les annonciateurs de la démocratie, la foule s'agglomère plus dense. Traîné par Davidovitch, Loubatier se ferait un chemin. Arrivé plus près, il remarque que, seul au milieu de ces buveurs d'absinthe, Lévy boit de la bière. La calotte d'Astrakhan se démène parmi les chaises de fer serrées comme des strapontins de théâtre, et deux grands bras sémaphoriques s'abattent sur les épaules du vice-président.
« Loubatier ! Je te l'amène ! Vois !»
Il crie si fort que la terrasse opère une conversion. La foule forme le cercle. Le voyageur se trouve seul et se caresse la barbe avec bonne humeur en regardant le monde. On le prend pour un agent électoral.
« Quelle nouvelle ! »
C'est un gros comitard, le gilet ouvert sur la chemise, la barbe taillée en touffe sous le menton et les yeux à fleur de front qui, renversé sur sa chaise et mâchant un reste de cigare, l'interpelle avec emphase. Le voyageur fait du plat des mains un geste amusé qui affirme son ignorance. Et le gros comitard détourne la tête avec dégoût. Mais Lévy arrive en bombe et ramasse dans ses mains la main de Loubatier. Le voyageur rencontre l'œil Véron, cerclé de rouge et plein de bonté, que le petit marchand de cycles lève sur lui.
« Ah, bonjour, monsieur Lévy.
On ne vous voit plus.
Pourquoi ?»
répond l'autre avec son sourire navré.
« Oh, croyez bien que si j'étais repassé par ici... »«
Alors, venez vous asseoir. Rien ne vous presse. C'est qu'il fait déjà chaud pour la saison. »
Quelques grincements de fer sur le ciment et Valentin Loubatier plonge jusqu'au cou en pleine conversation électorale. Ils sont les uns contre les autres. Les genoux gras du vice-président, assis de champ, lui brûlent les cuisses sous le drap noir et fatigué de son pantalon. Entre les interruptions, Lévy lui glisse son histoire.
On attend les résultats. Municipalité sortante réactionnaire. Tout va chez vous?
Merci, de même.
Et nous voici cinq. Trois petits nouveaux depuis votre visite. Deux garçons, une fille. Ancienne minorité républicaine de 18 voix.
Mais vous comprenez, les temps ont changé.
On espère bien décrocher l'hôtel de ville à ce tour-ci.
Un sourire, un silence.
Tenez, voici celui de nos candidats qui sera maire si notre liste passe en tête.
On saura ça avant 8 heures.
Oh, un malin, vous pouvez m'en croire, et même un honnête homme.
Si, si.
Un sourire.
Bonjour. Rien de nouveau?
Merci. Adieu, adieu.
Le voyageur reste pétrifié de cette faconde. On lui a changé son homme. Mais la voix rauque et sourde ne le trompe pas. Et le sourire timide qui dément l'autorité des paroles ne trompe pas non plus. Ses étonnements doivent se lire sur sa figure, car à deux tables de là, Davidovitch se réjouit sans retenue. Une figure laineuse aux yeux ternes, qui consomme à ses côtés, frappe Loubatier comme une sensation déjà éprouvée.
Oui, imaginez, trois petits, c'était pas une chose mince. Les affaires vont, merci.
Vous devriez m'inscrire sur votre tournée. Je comptais sur votre visite.
J'ai écrit à votre maison il y a un an.
Le saviez-vous?
Je fais maintenant la motocyclette et la petite réparation d'automobile.
Vous voyez, je suis assez satisfait.
Plaît-il?
Oui, oui, bien sûr, mon fonds est remboursé et le matériel amorti encore. Sans ça...
Vous permettez, on me cause.
Ah, ah ah!
Eh bien, mon ami, il faut y courir s'entraîner et me secouer tous ces gens-là pour les faire sortir de chez eux.
Est-ce qu'ils attendent qu'on leur apporte l'urne à domicile?
Oui?
Eh, dites donc, psst, prenez une voiture à nos frais.
Je m'autorise, n'est-il pas vrai, messieurs?
Et allez me chercher les vieillards de l'asile qui n'ont pas voté.
Allez, grouillez-vous.
Bonsoir. Les réactionnaires le font bien. Pourquoi ne le ferions-nous pas ? Vous dites ?
Bien sûr. Vous m'excusez, il faut que je m'occupe un peu de tout aujourd'hui. Le président est malade, comme par hasard. Vous n'allez pas me féliciter, n'est-ce pas ?
Je ne voulais pas.
Mais ils m'ont bombardé vice-président. Au fond, je ne le regrette pas. Parce que dans ce pays-ci, vous ne trouveriez pas un homme qui ait de l'initiative, un peu d'allant. Et si on veut la République, il n'y a pas 36 moyens. Il faut se remuer.
Ainsi, vous voyez, vous ne vous attendiez pas à me trouver dans les légumes.
Ne dites pas non.
Les amis ?
Quels amis ?
Ah, mes coreligionnaires !
Eh bien, ils sont là, tous.
Davidovitch, vous l'avez vu.
Et Maillard, là-bas, le reconnaissez-vous ?
Salmon, des planteurs de Caïfa, est parti pour Bordeaux.
Mais c'est Jung qui l'a remplacé.
Et les galeries ont un nouveau directeur qui est des nôtres, Guggenheim.
Plaît-il ?
Weil, le professeur au lycée.
Oh, je ne le comptais pas. Il y a belle lurette qu'il est parti.
À la fin, il faisait semblant de revenir à nous. Il avait reçu tant d'avanies de l'autre côté, mais il a été nommé à Grenoble. On ne l'a pas regretté. Il y en a un autre depuis un an, un professeur de philosophie, un Bloch, de Toul, tout jeune, qui est assez gentil.
Et Davidovitch a fait venir ses deux fils.
Excusez encore.
Merci, monsieur Vermorel. Bonne impression à votre section ?
Allons, tant mieux.
À ce soir.
Merci.
Adieu.
Oui, oui.
Celui-là, c'est un républicain du quartier Saint-Hilaire où la bataille sera chaude. La vieille section du centre, le plateau, comme nous les appelons, seront durs à la détente. Alors il faut que les quartiers ouvriers marchent. Nous avons formé une liste panachée avec les socialistes. Seulement, ces imbéciles du plateau se préparent à nous faire le coup de rayer les noms d'ouvriers de la liste, alors que les faubourgs vont voter, comme un seul homme, à liste pleine. Cela, j'en suis sûr, comme de deux et deux.
Et qui sera attrapé dans 2 ans aux élections législatives, quand les socialistes les lâcheront ?
J'ai beau le leur répéter, il n'y a rien moyen de leur faire comprendre. Tout cela, des vantards et rien d'autre. Quand ils ont reçu les palmes pour eux et une bourse nationale pour leur fils, ils croient la République sauvée. Ils imaginent qu'on peut donner et retenir à la fois. Et ils seront cause que 25 réactionnaires au moins rentreront à l'hôtel de ville. C'est déjà bien heureux que j'ai pu les décider à faire bloc avec les unifiés. Sans moi...
Ah !
Vous y pensez encore ?
Quelle mémoire !
Eh bien non, monsieur Loubatier, nous n'avons pas encore pu constituer de communauté. On aime guère en causer d'ordinaire. Mais je vous parle franchement de tout cela... Parce que vous avez fait pour nous... Enfin, il vaut mieux ne plus rappeler ces souvenirs. Pourtant, il y a des choses que nous n'oublions jamais, nous autres. Nous ne sommes que 8. Il faut être 10.
Mon garçon,
sourire délectable et longuement prolongé à l'intérieur. Mon garçon n'est plus avec nous. Il est anormal, mon garçon.
Oui,
c'est joli, n'est-ce pas ? Ah, il a bien travaillé, allez. Il a passé l'examen des bourses de licence en juillet dernier. Il a été reçu 3e, à 18 ans. Il arrivera. Seulement, il n'est plus un bon juif, monsieur Loubatier. Évidemment, moi, je ne pratique plus, mais je reste solidaire. Lui, je ne sais même plus. C'est effrayant. Combien il y en a parmi nos jeunes gens qui nous quittent. Et, savez-vous, pour ranimer le sentiment de notre race chez les jeunes, il nous faudrait peut-être une nouvelle affaire. Si la stupeur n'avait pas été trouvée, le voyageur l'eût inventé à ce moment-là. Le petit marchand avait glissé cela d'une façon sournoise et en mangeant les mots. Mais... ils n'en gardaient pas moins leur poids. Le voyageur les reçut d'aplomb sur le crâne. Et il se rendit compte, sans savoir comment, qu'il allait enfin comprendre.
Un brouhaha les avait séparés. Deux sénateurs du département arrivaient d'une allure affairée. Une masse d'indigènes les escortait comme des mouches qui s'attachent après des veaux à l'engrais. Le comité s'était mis debout. Et le fer grinçait plus que jamais sur le ciment, coupé du ronflement plus sourd que faisait la fonte des tables. La nuit venait. On relevait le store de la terrasse. Des mots émergeaient du tas. République, liste, majorité, confiance, succès, démocratie croissante. Le voyageur trouva Davidovitch à ses côtés. Deux grands diables, également décharnés, se tenaient derrière lui. « Mes fils, Élie, Abraham, vous avez vu Lévi, hein ?» Mais Loubatier n'était plus disposé à perdre du temps. Il allait comprendre. Il prit machinalement la longue lévite tachée du fourreur par les trois fils qui jalonnaient l'emplacement d'un ancien bouton. « Vous n'êtes donc pas parti, mon cher monsieur ?»« Parti. À Buenos Aires ?» Le Russe fit un geste vague de supériorité satisfaite. « Je suis naturalisé français. Lui aussi, Élie. Et Abraham a fait son service. Élie va se marier, à Paris, dans un mois. Alors, vous restez définitivement ?» Davidovitch ne jugea pas utile de répondre à une question qui portait sur le définitif. C'était une catégorie pour laquelle son cerveau n'avait point de case. Mais sa face de vieil aigle, brune comme de l'ivoire culotté, s'épanouit dans une gaieté narquoise et enfantine. Ses yeux vifs suivaient un groupe sur la place. Le voyageur se retourna. Encadré par les deux sénateurs républicains du département, qui se penchaient avec attention pour suivre ses déductions, Lévi se dirigeait vers l'hôtel de ville. Toute la foule refluait avec eux vers le faux Renaissance Second Empire du monument. Abraham Davidovitch regarda la pendule gouvernementale et, dans une langue irréprochable, un peu lente, il dit « 7h15, les scrutateurs achèvent le dépouillement. Les nouvelles dissections sont excellentes. » Très allumé, le vieillard agrippa le voyageur par la manche. « Je vais manger un morceau avant le résultat. » « Et je préviens Sarah que vous déjeunez demain avec nous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?» Loubatier serra évasivement la main du fourreur. Il avait hâte de se perdre dans le public pour réfléchir à son aise. À 8h, la municipalité réactionnaire était balayée de l'hôtel de ville par 2000 voix de majorité. Et comme le voyageur, flatté dans ses instincts démocratiques, levait le nez ébahi vers les fenêtres éclairées du bâtiment communal, une voix un peu humble lui parvint distinctement à travers les braillements de la foule. « Quelle différence avec 98, monsieur Valentin ! Mais voyez-vous, si nous étions partis, il nous aurait fallu faire ailleurs ce que nous avons fait ici. » Indigné, Loubatier perdit toute mesure. Il ne daigna pas honorer l'homme d'un regard. « Vous n'allez pas prétendre que sans vous rien n'aurait été fait. Ce serait un peu fort. Oh, »« On ne prétend rien de semblable. Ben, qu'est-ce que vous avez fait alors, vous ?»« Souvenez-vous, nous nous sommes contentés de durer. Vous, vous êtes très fort et très nerveux. Mais nous autres, nous savons subir et nous durons. Je vous garde à dîner. » Le voyageur vit danser devant ses yeux un petit Browning bronzé à 19,95 et diverses autres images moins guerrières. C'est pourquoi il tourna lentement la tête vers le petit marchand de cycles et lui répondit sur un ton de voix dont la gravité le saisit lui-même. « Allons, monsieur Lévi. » Mais comme il se mettait en marche, l'autre le retint doucement avec la main en souriant. « Plus par là, monsieur Valentin, j'ai repris la boutique de Couillot. »